conheço numa festa de São João. Morre hoje sem foguete, sem retrato, sem bilhete, sem luar, sem vida. Você me calo, tudo penso, nada falo, eu tenho medo de chorar. Nunca mais quero teu beijo, mas meu último desejo você pode negar. Se alguma pessoa amiga pedir que você me diga se você me quer ou não, diga que você me adora.
Vous écoutez État de Splendeur.
Thank you.
Bonjour et bienvenue à l'émission État de splendeur. En cette émission du jeudi 28 juillet 2011, État de splendeur étant une émission qui explore la culture authentique au Québec, tant traditionnelle et patrimoniale que d'avant-garde. Aujourd'hui, nous avons trois principaux sujets. On va parler de charcuterie, entre autres, parler de charcuterie faite au Québec, ainsi que de miel. On va parler de miel de manière non exhaustive, évidemment, parce que c'est un sujet assez substantiel. On va parler d'hydromel, notamment. Et pour terminer, il va y avoir la chronique fantomatique. J'espère qu'on aura le temps de le faire à cette émission-ci. La chronique fantomatique, une chronique qui revient à chaque émission pour explorer un aspect défunt de notre culture. Et cette fois-ci, dans la chronique fantomatique, ce sera la chronique qui parlera d'un village fantôme qui reste à déterminer dans quelques instants. Donc, c'est pour tout de suite et vous êtes en compagnie de Patrick Assikian à l'émission État du Splendeur pour l'heure qui vient. Donc, pour débuter l'émission, on va parler de miel. Avant de débuter, c'est un entrefilet, en fait, pour faire la suite d'une émission passée qui parlait des urbainculteurs. Les urbainculteurs étant des cultivateurs, c'est une entreprise de Québec qui se spécialise dans la culture sur les trois verres, mais la culture de plantes comestibles pour permettre aux habitants citadins de se nourrir avec des graminées et puis des légumes racines et de toutes sortes de légumes, mais en milieu urbain. Et puis, ce groupe-là va ensuite vendre ces légumes-là qui ont poussé selon des normes biologiques en pleine ville dans différents magasins d'aliments naturels. Et puis, c'est quand même assez inusité de voir une récolte de légumes biologiques qui provient des toits du centre-ville de Québec. Eh bien, ces urbainculteurs avaient aussi lancé l'initiative de faire du miel urbain. Et puis, ils ont donc mis plusieurs ruches, autour d'une vingtaine, sur des lieux urbains de Québec, notamment des hôtels, différentes institutions, la brasserie, la barberie, etc. Et c'est fort favorable comme expérience, puisque le miel qui en a été tiré, paraît-il, est succulent. Très, très doux, par contre, là. C'est pas un miel assez typé, c'est un miel très clair et très doux. Et puis, Montréal aussi a ses propres ruches urbaines. Notamment, récemment, il y a eu l'UQAM qui vient de mettre deux ruches sur son complexe des sciences. Et puis, évidemment, il faut mettre les ruches un peu loin du public pour pas que le public puisse aller chercher les différents rayons de miel, mais déranger les abeilles, mais aussi pour pas que les abeilles dérangent le public. Quoique, contrairement à ce qu'on pourrait penser, quand on s'approche d'une ruche, à moins qu'on dérange la ruche en tant que telle, les abeilles sont pas nécessairement agressives. Donc, ça peut cohabiter très bien des ruches en milieu urbain avec les humains. Et puis donc, c'est ça, c'est deux ruches sur le complexe des sciences de l'UQAM. Il y a aussi récemment le Technopôle Angus dans le quartier Rosemont-Petite-Patrie qui a vu ses propres ruches apparaître. Donc, c'est une bonne initiative à souligner. Et il paraît que la biodiversité en milieu urbain est quand même assez surprenante. Parce que si on va en milieu forestier, là, évidemment, la biodiversité est pleine. Mais si on va en milieu rural de style campagnard, c'est souvent des grandes surfaces qui sont dédiées à une seule culture et il y a beaucoup de pesticides. Ça ne favorise pas un miel avec du nectar d'origine vraiment variée. C'est souvent assez Ben ça donne un miel qui n'a pas beaucoup de subtilité, quoique ça, c'est souvent du très bon miel, mais contrairement à ce qu'on pourrait penser, les abeilles font du très bon miel en milieu urbain, et non seulement à Québec, mais bien à Montréal aussi. Et ça tombe bien, toutes ces initiatives-là pour aider les abeilles, puisque au Québec, tout comme ailleurs dans le monde, évidemment, comme tout le monde ou presque le sait maintenant, les abeilles ont beaucoup de difficultés. Et puis, c'est un problème criant, puisqu'ils pollinisent vraiment 70% de tous les aliments qu'on mange. Et puis, au Québec, on a vraiment de la chance, puisqu'on a seulement 30% de pertes dans nos ruches. Et ces 30% de pertes-là peuvent sembler énormes, en fait, sont énormes, et font de sorte que les apiculteurs au Québec maintenant font plus d'argent en faisant de la pollinisation qu'en faisant du miel. Puisque avec 30% de pertes, c'est ça. Mais par contre, ils peuvent faire de la pollinisation, c'est-à-dire amener leur ruche dans par exemple, un verger de pommes pour polliniser les fleurs de pommier pour que ça puisse donner des pommes intéressantes. Ben c'est souvent les fermiers vont faire la location de ruches pour qu'ils puissent se faire polliniser leur production. Donc, c'est plus lucratif de faire de la pollinisation que du miel maintenant au Québec. Mais quand même, avec 30% de perte de miel par ruche, c'est pas si pire comparativement à ailleurs dans le monde, puisque il y a une maladie. Il y a sans doute plusieurs influences qui font de sorte que les abeilles ont beaucoup de difficultés à exister. Il y a des problèmes reproductifs, il y a des problèmes au niveau des ondes, probablement des micro-ondes, et aussi au niveau des pesticides, sans doute. Mais une des causes principales et qui est vraiment difficile à éradiquer, c'est le varroa. Le varroa est un petit parasite et c'est surprenant de voir ça, mais l'abeille elle-même a un parasite. C'est un parasite de la grosseur d'une tête d'épingle et puis ça va se fixer sur l'abeille et ça va lui sucer toute son énergie, et puis c'est comme si elle fonctionne, elle va continuer à vivre, mais elle va être en état de burn-out, disons. Et puis c'est beaucoup plus difficile pour ces abeilles-là de travailler, et c'est ce qui fait de sorte qu'il y a 30% de pertes dans nos ruches, mais ce qui est au Québec pas si mal. Mais c'est beaucoup plus difficile de s'occuper des ruches puisqu'il faut faire toutes sortes d'applications et de méthodes préventives pour empêcher le varroa de se propager. Et souvent, il faut brûler des ruches qui sont attaquées par le varroa. Et à l'époque, dans les années 1960 ou 1980 même, un homme pouvait s'occuper de 500 ruches, qu'on disait, c'est une règle générale. Aujourd'hui, un homme peut s'occuper de peut-être 150 ruches maximum. Et donc, la dynamique n'est pas tout à fait la même. C'est pour ça que les initiatives pour encourager le miel urbain sont fort intéressantes et méritent d'être soulignées. Et puis, il y a aussi l'Union paysanne qui a passé à l'acte au niveau des ruches. Ils ont placé 6 ruches sur des toits d'édifices publics, surtout dans le plateau Mont-Royal. Et puis, c'est donc une initiative fort favorable. Et on vient rejoindre maintenant d'autres grandes villes comme Seattle, Chicago, New York, Paris. Et c'est quelque chose que je crois qu'il y a de l'avenir avec le miel urbain. Ça, c'est non sans rappeler l'époque où on a essayé de permettre l'élevage de poules sur les balcons. Ça, je ne sais pas si il n'y aurait pas des raisons hygiéniques qui viennent peut-être infirmer cette initiative-là, mais pour le miel urbain, ça donne des résultats. Ça ne dérange pas le public, il n'y a aucun problème hygiénique ou quoi que ce soit. Et ça va favoriser le cheptel d'abeilles au Québec. Donc, c'est un clin d'œil à toutes ces initiatives-là qui font de sorte que maintenant, il existe des ruches en pleine ville et des abeilles travaillent fort pour produire du miel. Nous allons aller tout de suite en pause musicale avec une version funk de Au clair de la lune.
Mmh. ami Pierrot, prête-moi ta plume pour écrire un mot. Ah, 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 ah. Prête-moi ta plume pour écrire un mot.
C'était les Sinners. Les Sinners avec la pièce Au clair de la lune. Les Sinners, les auteurs très connus de la pièce québécoise. Une pièce assez emblématique des années 60 et de la Révolution tranquille. Nous allons maintenant parler de charcuterie. Les charcuteries au Québec commencent à faire leur apparition maintenant depuis, c'est-à-dire commencent à faire leur apparition depuis plusieurs années maintenant, mais ça commence à être assez établi en tant que production. Au Québec, nos habitudes commerciales et réglementations n'ont pas toujours favorisé l'essor de charcuterie. C'est pas avant les années 2003-2004 qu'on a vu apparaître des compagnies qui faisaient des charcuteries, mais des vraies bonnes charcuteries authentiques et faites à la manière traditionnelle telle qu'on peut les retrouver dans les marchés fermiers en Europe. Peu de compagnies de charcuterie avant ça, peu ou pas de compagnies offraient des produits artisanaux de qualité. Ils faisaient des productions plutôt industrielles qui avaient leur qualité quand même. Là, il y avait des bonnes productions quand même, mais pas de la méthode traditionnelle pour les saucissons et autres charcuteries. Il y a eu un regain de l'importance des produits bio récemment, mais les charcuteries ont été absentes pendant si longtemps de nos assiettes que la production d'authentiques saucissons bio ont pris un certain temps à voir le jour. C'est-à-dire que les produits bio sont souvent avant tout associés aux légumes et à d'autres produits transformés comme la bière ou le vin, par exemple. Mais rarement est-ce qu'on va faire le pont pour les produits bio avec la viande bio, ça existait, mais les produits transformés bio de viande étaient très peu connus puisque c'est surtout les légumes qui avaient la cote pour les produits bio. Mais maintenant, il y a plusieurs producteurs qui ont décidé de faire des charcuteries authentiques pour redonner le goût aux gens évidemment avec parcimonie, là, pas pour favoriser la consommation de masse de viande, ce qui serait pas très favorable, mais pour redonner le goût de ce que c'est qu'une charcuterie authentique faite ici, parce que évidemment, quand on va dans différents pays d'Europe, on peut retrouver des charcuteries qui sont incroyables et qu'on pourrait faire ici puisqu'on a des très très bons porcs, des différents animaux qui sont très bien élevés. Mais malheureusement, on n'avait pas jusqu'à tout récemment le savoir-faire nécessairement pour mettre ces élevages en valeur. Alors, il faut savoir avant tout qu'un saucisson est un produit en lactofermentation. La lactofermentation, c'est le processus qui ressemble un peu... ça ne ressemble pas un peu. C'est le processus qui fait de la choucroute. C'est-à-dire que c'est la choucroute étant un chou qui a lactofermenté, La lactofermentation est un processus de fermentation intracellulaire qui conserve les propriétés nutritives d'un aliment et qui va même parfois en rajouter. Ça va même rajouter certaines vitamines. C'est une méthode de conservation qu'on utilisait traditionnellement pour passer l'hiver et puis pour conserver les aliments. C'était une des seules façons qu'on pouvait manger des légumes avec des feuilles au courant de l'hiver à l'époque. Et puis cette méthode-là, la lactofermentation, en fait, ça a créé une certaine activité, une fermentation dans l'aliment qui fait de sorte que c'est bon, il va y avoir un changement au niveau des principes gustatifs, mais aussi au niveau de la nutrition de l'aliment. Et puis, c'est pas seulement les légumes qu'on peut lactofermenter, mais aussi certains fromages au lait cru qui sont affinés pendant longtemps. Et les saucissons traditionnels sont en lactofermentation. Un produit en lactofermentation est comme habité par toutes sortes de micro-organismes qui empêchent des micro-organismes pathogènes de rentrer dans la viande. C'est comme si la lactofermentation était une activité qui protège le saucisson. Alors, tout était fait pour qu'on puisse... c'est-à-dire que le saucisson est recouvert d'une membrane protectrice, souvent faite en tripe, en boyau d'animal. Et puis, traditionnellement, on fait sécher les saucissons dans une armoire afin que l'activité de lactofermentation se poursuive dans le saucisson et que le goût soit concentré. Et malheureusement, aujourd'hui, on ne peut pas faire sécher comme on le faisait de manière traditionnelle les saucissons. On est obligé de les réfrigérer et puis de trouver d'autres astuces pour préparer d'authentiques saucissons. Donc, il y a encore certaines méthodes ou réglementations qui nous empêchent de faire la préparation traditionnelle, mais néanmoins, on a quand même un cadre dans lequel on est capable de produire des charcuteries authentiques. Et puis, c'est ce dont on va parler après la brève pause musicale que voici.
Radio Centre-Ville, aubaine. Facebook, Radio Centre-Ville, aubaine.
Vous avez un profil sur Facebook? Êtes-vous intéressé par les aubaines? Sur Facebook, recherchez la page de Radio Centre-Ville. On a des offres intéressantes pour vous. Des produits et des services à super bon prix. Les sommes amassées servent à financer votre radio.
Facebook, Radio Centre-Ville, aubaine.
Ne manquez pas Voyages musicaux. Une émission de découverte musicale de Montréal
à Hong Kong,
à Shanghai, en passant par le monde entier.
Avec Simon Onkantner
et Sabina Amandara, tous les mardis soirs de 22h30 à 23h30 sur les ondes de Radio Centre-Ville, 102.3 FM.
Bonjour, ici Pierre Lahaye, horticulteur. Je vous invite à prendre une bouffée d'air frais tous les mardis de 13h à 14h à Radio Centre-Ville au 102,3 FM. Je vous parlerai d'horticulture, d'environnement et aussi de musique. Une bouffée d'air frais tous les mardis de 13h à 14h.
Arts Notebook, avec Stan Asher et copilote Davin Ryle. Votre départ vous attend chaque samedi matin à destination de la scène locale de théâtre anglais, avec escale au film, au festival culturel, le calendrier des activités culturelles et également les critiques de ce qui se joue sur les scènes locales. Tout le monde à bord, les samedis de 11h30 à 12h30 avec Arts Notebook.
Salsa, reggae, samba, zouk, lambada, bossa nova, fado, hip-hop, hagamofi, mala, tango, samba, merengue, bachata, jazz, chansonnette française, soukous, rock francophone, funk,